Sur Canal B, du 13 au 17 avril à 12h15, 8h15 en rediffusion, découvrez « Celles qui nous entourent », une série de podcasts issus d'un projet de jumelage sur 3 années, en partenariat avec le centre hospitalier Guillaume Régnier, le groupe Odyssée et le Grand Cordel MJC. Depuis septembre 2023, le groupe Odyssée est allé à la rencontre des résidentes et résidents des unités de soins du centre hospitalier Guillaume Régnier, recueillant des récits pluriels, intimes et sensibles. À la suite de chaque épisode, Nina prolonge l'aventure et vous emmène dans les coulisses du projet à la découverte de celles et ceux qui l'ont fait vivre, artistes mais aussi soignantes. C'est lui qui nous entoure, à écouter sur Canal B.
Celle qui nous entoure. Deuxième année, se raconter. Groupe Odyssée, compagnie de théâtre, est en résidence de création de 2023 à 2026 dans le cadre d'un partenariat avec le Grand Cordel MJC et le centre hospitalier Guillaume Régnier. Un projet transversal autour de la mémoire et des liens entre patientes et personnel de l'hôpital. Avec Romain Brosseau, Cécile Kerel, Flora Diguet, Marie Niger, Marie Thomas. En UHSA, unité hospitalière spécialement aménagée.
Écoute, oui, ça pourrait être plus déprime que ça, quoi.
Tu sens qu'en tout cas, ils ramènent pas chez nous, enfin, dans l'atelier, ils ramènent pas leur déprime. T'as un peu l'impression qu'il y a un petit sas qui est fait quand même.
Je me suis à aucun moment senti mal à l'aise, par exemple.
Ouais, non.
Avec en plus la préparation de votre année dernière, de votre expérience et tout ça. Enfin, tu vois, à aucun moment, je me suis dit, ça va être chaud, ça va être long.
Ouais,
jamais.
Non.
Quand bien même. Le seul petit truc difficile, c'est retrouver la taille de cette salle. Je suis arrivée, je me suis dit, tu vois, j'ai eu peur que ce soit oppressant et tout, machin.
Ouais, ouais.
Et j'ai eu peur d'avoir un petit coup de, je sais pas comment on appelle ça,
claustrophobie. Ouais, bah on est, du coup, il y a l'enfermement aussi.
On sait qu'on peut pas sortir facilement, je sais pas quoi. Et en fait, pas du tout, il y a des fenêtres qui donnent vers l'extérieur, et puis juste les gens, dès qu'ils passent la porte...
Ils et elles arrivent avec des parcours chaotiques, traumatiques.
Des enfances marquées par des carences affectives.
Éducatives.
Agressions sexuelles.
Traumas liés à l'enfance.
Des pathologies où l'empathie existe peu.
Les émotions sont court-circuitées. L'autre n'existe pas.
Nous sommes en UHSA, unité hospitalière spécialement aménagée.
Prison et hôpital psy à la fois.
Enjeu sur la proximité des corps.
2 femmes, 4 hommes.
6 patientes.
2 soignantes.
2 artistes.
35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans.
Molène.
Ménez.
On mélange les unités.
Là, donc la porte, elle est ici,
ouais.
Et on arrive dans cette toute petite salle.
Et alors, la salle est toute petite, il y a une seule fenêtre avec des barreaux. On se dit qu'on va l'ouvrir, mais en fait non, parce que si on l'ouvre, il y a une grosse soufflerie dans le patio et ça fait beaucoup trop de bruit.
On l'ouvre pendant la pause.
Oui, parce qu'il fait chaud, il fait très très chaud dans la salle.
Là-bas, il y a l'étagère, donc on range tous les poufs et les ballons pour gagner un maximum de place.
Il y a un ordinateur, mais il est HS, donc notre playlist qu'on a préparée va être inutilisable.
Ça servira à rien. Là, c'est le bouton rouge, c'est un bouton d'urgence. Où en fait, si on l'appuie, il y a toute la sécurité qui arrive.
T'as appuyé dessus à un moment donné avec ton dos.
Ouais, j'ai pas fait exprès.
Mais tout s'est bien passé. On n'a pas l'heure dans cette salle.
Il n'y a pas de pendule.
Car on n'a pas le droit au téléphone.
On n'a pas le droit au téléphone parce qu'ici, on est en prison, en fait.
On est en prison, dans les unités carcérales.
De Guillaume Régnier.
Tout à fait. Jour 1.
Jean me dit qu'il va bien dormir ce soir. ce grand gaillard d'1m83 qui a le smile, qui a une prothèse au genou gauche et qui a réclamé une chaise car on passe trop de temps debout. Être debout, c'est déjà un effort. Au goûter de l'enfance, il réclame un chocolat chaud. Il met son verre de lait au micro-ondes et nous raconte que la première fois qu'il a utilisé cet appareil, ça avait débordé tout à côté. Comme une prophétie, le chocolat bouillonne déjà et la moitié sort du verre. Il trempe les gâteaux amassés pendant le goûter. Ce goûter, c'est un trésor. À l'issue de ce premier jour, Jean dit qu'ici, on apprend à s'accepter, que le regard des autres est bien. Quand t'es en prison, le regard des autres, il est figé. T'es jugé en permanence. Jour 2.
Jean se sent bien ici, mais hier, après le théâtre, c'était difficile le retour en unité. Il se sentait pas bien, ne savait pas quoi faire avec les autres. Jean et Marjolaine sont moteurs dans le groupe par leur envie, leur sociabilité, leur dynamisme. Il et elle sont les premiers à bondir sur le plateau, lancer les exercices, éclater de rire. Fanny, infirmière à l'unité Molène, elle est cash, elle fait plein d'humour. Au tout début, ça m'a interpellée, et puis très vite, ça m'a plu. On repart de l'unité où avait lieu la pause clope dans la cour pour se diriger vers le goûter collectif. Et aux patientes qui attendent devant la porte rose blindée et à laquelle il faut une clé et un badge pour ouvrir, elle leur dit « Ben comment ça, vous attendez derrière la porte? Vous avez pas les clés du château ?» Marjolaine se tourne vers moi, tout sourire. « T'as vu comme elle y va, hein ?» Et Fanny de me dire « Oui, oui, je fais beaucoup d'humour. Bon, parfois ça passe pas, hein ?» Jean nous offre un petit concert improvisé pendant le goûter. Quelques accords de guitare, une voix brute, pleine de sincérité. Dehors, Jean joue dans la rue, guitare en bandoulière, à la recherche de quelques pièces ou billets. Avec une bouteille de vin à portée de main, dit-il, pour se donner un peu de courage. Mais Jean, c'est aussi une autre facette. Il parle avec une lumière dans les yeux de son envie de jouer dans les hôpitaux, pour les malades. Offrir un peu de musique là où il n'y a plus grand-chose à espérer. C'est là que réside peut-être sa plus grande force. J'en oublie un instant l'endroit où nous sommes. Jour 3.
Pour Jean, pour Cécile, quelque chose est tombé. Un mot de trop, une décision venue d'ailleurs. De celle qu'on ne contrôle pas, que nous, artistes, ne maîtrisons pas. Médecin, justice, des nouvelles qui cognent plus fort que prévu. Jean entre un peu plus lentement aujourd'hui. Il demande sa chaise plus tôt, sans détour. Il s'assoit lourdement et je sens dans son regard que ce qu'on lui propose, même avec tout notre soin, l'épuise un peu. Il est là, pourtant. Et pourtant, il reste. Plus tard, lors de la pause, quand nous repartons dans les unités pour fumer, on se pose dans un coin tranquille, au soleil. Nous fumons. Moi, une cigarette. Lui, deux. D'affilée. Marjolaine est là aussi. Jean me demande mon briquet, objet interdit ici, pour le plaisir de retrouver cette sensation. L'évasion tient à peu de choses. Il me parle de l'odeur qu'il n'a jamais oubliée. C'était une demande dans un de nos exercices. Les rosiers du jardin de sa nounou au Brésil. C'est lui qui les taillait, qui les coupait. Tout petit. Il y avait du soleil, des gestes lents, une forme d'amour tranquille. Un rosier sublime qu'il a replanté et qui a poussé de manière gigantesque, presque magique. C'est très loin tout ça. trop loin. Et ça le rend triste d'y penser. Il le dit sans s'en cacher. Alors maintenant, je vous demande de me livrer deux thèmes. Le moment que je préfère de la journée et ce qui me rend joyeux. Ok ? On y va.
Ma fille.
Dormir la nuit.
Ma famille.
Jouer avec les enfants après le dîner.
La mer.
Faire de la guitare le matin.
Sentir mes enfants quand ils sortent du bain.
Prendre mon fils dans les bras.
Quand le soleil se lève. En UHSA, tout prend une autre ampleur, un double sens, une profondeur, un gouffre de sens vertigineux.
Est-ce qu'on peut voir un coucher de soleil depuis sa cellule ? Est-ce un luxe de pouvoir dormir la nuit, chaque nuit, paisiblement ? Marjolaine lâchera en fin de séance.
Il y a de l'émotion, c'est personnel, c'est triste ou gai vu notre situation. Merci de parler de la vie dehors. Ça me fait penser à moi, à ma vie, ça me fait du bien. Jour 4.
J'ai quitté mes cartes, tout ça.
Ça suffit, en soi, je peux dire.
Je sais pas pourquoi, j'ai un truc électronique et j'avais mis les cartes bancaires dedans.
Romain Brosseau, je l'ai pas sur la liste.
Non, mais si, vous aussi, si.
Il va falloir que je me renseigne.
Oui.
Merci.
Merci.
Toi qui es LE coordinateur du projet. Ah donc c'est juste enregistreur, donc même mes clés, mon chargeur...
Bon, après, oui, en soi ça passe normalement, c'est tout ce qui est téléphone.
Ah oui c'est ça, parce que je croyais qu'il fallait pas... Je vois pas pourquoi d'ailleurs, en plus ça serait interdit. Ah ben on va faire moins de tri. Romain Brosseau, je l'ai pas. Quelle histoire, c'est la première fois que ça nous embête de la semaine.
Écoute, ouais. Dernier jour.
Ouf. C'est bon ?
C'est bon ?
Merci.
Ah, voilà. Super. Merci beaucoup.
Bonjour.
On va prendre un casier. Bonjour.
Je comprends ce dernier jour que depuis le Covid, les patientes mangent seules, dans leur chambre, tout leur repas, même le goûter.
Je réalise donc le luxe des 4 goûters collectifs de cette semaine. Nous sommes 10 dans la petite salle polyvalente, à manger plusieurs gâteaux, à boire plusieurs cafés ou chocolats, ensemble, à discuter.
Jean se lève et prend la guitare avec un air entendu. Il a préparé le pénitencier. Il veut qu'on le chante ensemble. Et on le fait. La salle se remplit de voix, certaines un peu fausses, d'autres hésitantes, mais toutes présentes. Ça vibre dans le corps. Ce moment collectif, presque banal, devient solennel.
Le soleil n'est pas fait pour nous. C'est la nuit qu'on peut tricher. Toi qui ce soir à tout. Perdu, à demain tu peux gagner. Oh mère, écoutez-moi, ne laissez jamais vos garçons. Ouais, toi, la
53% des détenus en France sont passés par l'aide sociale à l'enfance.
En discutant avec Damien, infirmier, je comprends que dans les prisons de Vezin et Rennes, il y a plus de détenus au profil psychiatrique incarcéré, parce que justement, une unité UHSA régionale existe à Rennes, à Guillaume Régnier. Que les juges savent ça et en tiennent compte lors de l'application des peines. Ce qui crée un déséquilibre dans la population incarcérée, particulièrement au CPH de Vezin, qui réunit deux maisons d'arrêt, un centre de détention et un quartier courte peine. Et comme il n'y a plus assez de moyens en psychiatrie, je comprends entre les lignes, sans que ce soit clairement affirmé, qu'une partie des détenus n'ont rien à faire en prison et devraient plutôt être hospitalisés dans les services psychiatriques adéquats.
Hier soir, on est vraiment à 21h30, je dormais. J'étais lessivée.
Ah oui, mais hier soir, on a fait
beaucoup d'émotions. Mais là, je trouvais que il y avait beaucoup de symbolique aujourd'hui. Enfin, moi, il y a plein de trucs là que je faut que je me note ça parce que ce que je te disais à la pause, les qualités. Quand j'en ai plusieurs qui disent la patience, je dis waouh. Wow. On est là. Jean qui arrive avec sa guitare, enfin le pénitencier, les paroles. Et c'est beau parce que c'est pas. C'est inconscient, il y a un truc inconscient un peu qui nous dépasse. Et je pense que vu qu'ils sont pas habitués, parce que leur parole elle est pas souvent entendue.
Bah nous on passe beaucoup de temps à les écouter, c'est dans un côté très thérapeutique en fait. Nous on n'est pas là pour parler de la pluie et du beau temps, mais on parle du temps. Et ça vient que, la plupart ça vient que chaque mot qu'ils vont nous dire derrière vont être décortiqués, analysés et tout. Et on sait très bien que parfois ça freine aussi la parole et ce qu'ils peuvent nous en dire.
Je ne sais pas comment finir ce journal de bord. Chaque jour, la sortie du bâtiment avec Romain est une profonde respiration d'air libre, renouvelée et vivifiée par ce qu'on vient de vivre à l'intérieur. Au moment de se dire au revoir, Marjolaine me prend dans ses bras. « Donc, tu feras la lecture du Goncourt à la prison des femmes en novembre ?»« Ben, j'espère que je serai plus là. Enfin bon, je serai certainement là. » Et résonne en moi « Could you be loved ?» un des morceaux utilisés dans la semaine.
Oh la vache.
Jean, le regard de Jean et la fermeté de sa poignée de main. Tu sens qu'on a fait quelque chose d'important.
Ah ouais. Il m'a fait un câlin. Parce qu'en fait, je discutais avec Marjolaine quand il est venu me dire merci, pareil pour Jean-Frédéric. Donc je suis retournée les voir et je leur ai dit non, attendez, je veux vous dire un vrai merci. Et là, il m'a pris dans ses bras. C'est possible avec moi.
Ouais.
Et c'était sincère, chaleureux.
Ouais.
Et derrière Marjolaine, pareil. J'étais là, oh, ces gens. Bref, non, vous m'achevez. Oh la vache.
Michael et l'odeur qu'il n'oubliera jamais, le jaune des pâquerettes. Je ferme les yeux et sens cette odeur avec lui.
Jean-Frédéric se transforme au fil des jours. Il sourit de plus en plus, vraiment, avec les yeux. Il anticipe les ateliers, nous demande ce qu'on va faire. Il veut comprendre, se projeter.
Marjolaine parle de ses enfants dans presque toutes ses propositions. Constamment. Il jalonne ses phrases. Ils sont son point d'ancrage, même dans le chaos.
Cécile était là tous les jours, malgré la nouvelle tombée brutalement le deuxième jour. Sa peine est prolongée de 4 mois. Et le dernier jour, on lui a arraché 2 dents. Mais elle est là.
Flora est émue. Jean chante.
Fanny a les yeux brillants, la voix douce. Elle mesure ce qu'on lui a donné. Elle dit que ça lui manquera. Elle dit aussi qu'elle est heureuse d'avoir rencontré Jean-Frédéric, Darwin, Michael. Je les connaissais pas, maintenant si.
Marine, qui rougit et ses poings se serrent pour exprimer la colère.
Damien, qui était avec nous les deux premiers jours, vient me voir à la pause. C'est important d'exprimer ses émotions. On parle longuement. Il veut comprendre comment on crée ça, ce lien, ce terrain où chacun, chacune peut exister.
Maëva qui nous demande quand est-ce qu'on revient. C'est une question qui pique un peu. Parce qu'on ne sait pas. Parce qu'on aimerait. Parce qu'ici, quelque chose s'est tissé.
Darwin. C'est dur de savoir que ça se termine. Il ne cherche pas à cacher. Il ne dramatise pas non plus. C'est une vérité simple.
C'était Celle qui nous entoure. Deuxième année, se raconter. Un projet de Groupe Odyssée. Réalisation, Marie Niger. Coordination du projet, Romain Brosseau. Avec Flora Diguet et Marie Thomas, actrice. Cécile Kerel, autrice. Merci à Jean-Frédéric, Maëva, Darwin, Fanny, Jean, Marjolaine, Damien, Marine, Michael, Cécile. Et merci à l'équipe du Grand Cordel MJC et aux équipes du Centre Hospitalier Guillaume Régnier. Podcast réalisé dans le cadre de la deuxième année de jumelage entre Groupe Odyssée, le Grand Cordel et le Centre Hospitalier.
Vous venez d'entendre la restitution sonore du projet Celle qui nous entoure, un projet artistique de 3 années en partenariat avec le Centre Hospitalier Guillaume Régnier, la compagnie de théâtre Le Groupe Odyssée et le Grand Cordel MJC. Pour accompagner ces immersions sonores et vous partager un petit bout des coulisses de cette réalisation, Canal B reçoit en plateau après chaque épisode une ou plusieurs personnes qui ont participé de près ou de loin au projet. Et aujourd'hui, nous avons avec nous
Romain Brosseau Jeuneste, acteur, metteur en scène de Groupe Odyssée.
Élise Gamard, coordinatrice des actions culturelles et artistiques au Grand Cordel MJC.
Élie Le Gousset, en service civique à la MJC du Grand Cordel.
Eh bien, bienvenue à tous et toutes les trois. Merci à vous d'être ici. Alors, une petite question pour commencer pour vous, Élise. Nous venons d'entendre un journal de bord d'ateliers artistiques qui ont eu lieu au sein de l'unité hospitalière spécialement aménagée du Centre Hospitalier Guillaume Régnier, donc une UHSA. Est-ce que vous pouvez redire un petit peu pour les auditeurs auditrices ce qui se cache derrière cet acronyme, ce jargon de l'UHSA ?
Alors, ça veut dire l'unité hospitalière spécialement aménagée. Ça dépend en fait du Centre Hospitalier Guillaume Régnier. C'est des personnes en fait, qui ont été en détention ou qui sont en détention, qui à un moment de leur vie doivent être hospitalisées et donc sont réorientées dans cet espace-là pour une courte durée.
Et alors Élise, on continue avec vous. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cet épisode, de l'ambiance sonore, de la manière dont les textes étaient redonnés à entendre aux auditeurs et auditrices ?
Bah, j'ai trouvé ça très intéressant, la façon dont justement l'équipe artistique a pu retransmettre un petit peu les émotions et les rencontres qu'ils ont pu faire au sein de cette unité-là.
Alors Romain, contrairement aux autres épisodes que vous avez réalisés, vous n'avez pas pu réaliser d'enregistrement sonore pendant ces ateliers-là. Vous avez à deux voix dû raconter ce que vous aviez fait avec votre collègue. Finalement, est-ce que pour vous, c'était plus un exercice d'écriture pour la réalisation de ce podcast ? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'expérience que vous avez eue, vous, personnellement, en UHSA ?
Bah oui, la difficulté, en fait, de cet endroit, c'est que... Alors, on aurait pu demander à faire rentrer un enregistreur, mais la contrainte, vu que c'est en prison, c'est que l'administration doit ensuite repasser par là, écouter tout ce qui a été dit, pour le valider. Évidemment, il y a une espèce de contrat avec les participants et les participantes où en fait ce qui se passe en atelier bah, du coup, ne peut pas être écouté par l'administration, c'est pas possible, ça ferait un gros filtre et ce serait pas la même qualité de rencontre qui serait passée. Donc en effet, la difficulté c'est pas tant de l'écriture, c'est surtout la mémoire en fait. C'est comment est-ce que la captation sonore, elle capte des moments qui peuvent se figer et il y a cette sensibilité-là qui est tout de suite présente. Là, il fallait la retranscrire. La chance, c'est qu'avec Flora, on a passé sur cette deuxième année-là, on a eu des rencontres très fortes qui nous ont marquées puissamment, vraiment. Donc c'était pas simple, mais en tout cas, on avait très envie, on était mus par cette envie de raconter ces rencontres.
Vous redites, vous lisez, vous jouez dans cet épisode aussi des choses qui vous ont été dites, partagées. Pour vous, c'était quoi ce travail? C'est un peu un travail d'acteur, de comédien, de redire les mots de quelqu'un d'autre. Comment vous l'avez fait? Comment vous l'avez préparé, ce repartage des éléments qu'on vous avait partagés?
C'est un travail, on l'a aussi fait, on a travaillé en réel l'année dernière, à la fin de la deuxième année, puisqu'on a fait une espèce de performance un peu, et il y avait ces extraits-là. C'est un vrai travail. En tant qu'acteur et actrice, comment est-ce qu'on reproduit, comment est-ce qu'on représente ces corps, ces voix, ces gens-là? C'est pas simple. Il y a plein de questions qui se posent. Donc voilà, c'est très concret en fait. On essaie techniquement de voir comment est-ce que c'est faisable, sans que ce soit du cliché, du jugement, que ça puisse ridiculiser les gens, surtout pas. Donc c'est un vrai travail d'acteur et d'actrice, mais comme, je sais pas, si je devais faire quelqu'un qui est complètement saoul, comment je le ferais, techniquement, en tant qu'acteur. Bon, voilà, c'est un peu du même ordre.
Lilou, toi tu es en service civique à la MJC Le Grand Cordel, tu travailles j'imagine sur différentes thématiques justement de partenariat culturel, de différentes configurations de travail entre des acteurs artistiques, des acteurs culturels et là en l'occurrence le centre hospitalier. Pour toi, c'est quoi l'impact d'un tel projet sur le grand public?
De ce que j'ai pu voir de ce projet, il y a un véritable engouement à faire porter des voix de personnes qu'on n'entend pas beaucoup. Et apporter de la créativité, de la liberté, de pouvoir dire des choses dans un cadre dans lequel les choses peuvent être très facilement gardées pour soi. Vraiment une responsabilité de la part des artistes que j'ai pu voir une semaine en résidence, notamment au Grand Cordel, de voilà, donner la parole à ces personnes-là et de donner en fait un vent de liberté, une grande créativité et une voix en fait.
Et les thématiques de ce projet multiforme, c'était la mémoire et les liens entre les patientes et les soignantes, mais aussi le récit et le patrimoine immatériel. Alors ça peut paraître peut-être très, très vague, très grand, très vaste comme thématique. Élise, pourquoi vous avez choisi ces thématiques-là? Comment elles ont résonné avec vous, notamment celle du patrimoine immatériel?
Alors en fait, tout d'abord, ce projet-là, il a fait cohérence aussi, nous, avec notre programmation artistique qui est vraiment autour de l'oralité, du récit et des écritures. C'est ce pourquoi, en fait, on avait aussi proposé de travailler, du coup, avec le groupe Odyssée, dans un premier temps. Et après, l'idée, c'était de parler du récit, du patrimoine immatériel, de faire émerger des voix qui sont souvent, justement, tenues à distance et de permettre aussi de se raconter, de se rencontrer, de créer aussi à travers ces trois années de projet.
On parle de liens, de récits, de liens entre des personnes, mais là, en l'occurrence, quels sont les liens qui se sont développés entre vos structures à vous également, entre la compagnie, entre le centre hospitalier et puis la MJC Le Grand Cordel?
C'est des liens, on fait œuvre commune, c'est-à-dire que et avec la MJC... C'est hyper agréable quand on est une équipe d'artistes d'avoir un endroit repère, parce qu'on n'a pas de lieu de repère. On travaille dans des théâtres tout le temps différents. Là, à la MJC du Grand Cordel, quand on arrive, on se sent un peu à la maison. Et c'est très 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 agréable. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a un peu un deal où pendant 3 ans, à chaque fois qu'on veut venir travailler, les portes sont ouvertes, on s'arrange. Donc c'est très agréable. Pour ce qui est de l'hôpital, les lieux sont parfois compliqués. C'est compliqué d'y rentrer. Bon, là, on parle de l'UHSA, donc parfois même quand on doit rentrer, on ne peut pas. C'est beaucoup de paperasse. C'est plutôt les gens, effectivement. C'est le lien avec les gens. Ce projet-là ne peut se faire que parce qu'il y a des vraies rencontres. Et c'est vrai que là, on est en troisième année, c'est bientôt la fin. Et en fait, il y a des gens vraiment qui ont été ressources, pour qui nous sommes aussi ressources. C'est-à-dire que les gens nous attendent aussi pour revenir travailler, pour venir encore faire de nouvelles choses avec parfois les mêmes personnes, parfois d'autres. Et ça, c'est hyper précieux sur une création au long cours. Comme ça, c'est souvent on fait des projets quand même très ponctuels. On vient une semaine et puis on repart. Là, ces 3 années, ça permet de vraiment créer des vraies rencontres. Maintenant, c'est encore, je trouve, compliqué de faire rentrer des artistes à l'hôpital, que l'hôpital aussi sorte pour aller dans un théâtre à la MJC. Il y a encore des complexités, mais ce projet, je pense, fait du bien là-dessus.
C'est des complexités de l'ordre administratif, logistique, ou plutôt des réticences de la part des personnes qui sont décisionnaires dans ces établissements-là ?
Je pense que c'est très compliqué dès qu'il y a une sortie, dès qu'il faut sortir un peu d'argent, tout de suite, c'est des paperasses, c'est des papiers, des demandes à faire. Et je pense que le milieu de la santé, comme le milieu de la culture, est sous tension. Donc en fait, les gens sont fatigués et ça demande beaucoup d'énergie. Et les personnes qui font ces projets-là, elles en font déjà plein d'autres. Elles sont déjà hyper motivées, hyper généreuses. Donc chapeau à toutes ces personnes-là. Mais effectivement, c'est... Et puis c'est une méconnaissance aussi. C'est quand on voit des artistes débarquer, si on n'a jamais fait de projet artistique à l'hôpital, je pense qu'on se dit mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire ? Donc ça prend du temps.
Il est intéressant ce parallèle-là entre le monde de la culture et le monde de la santé qui sont tous les deux fatigués, qui ont de moins en moins de ressources et sur lesquels, enfin, dans lesquels les projets reposent sur des personnes qui font ça en plus de leur travail salarié ou de leur temps plein. On va parler maintenant d'une thématique qui est au centre de cet épisode-là. L'ambiance sonore, elle est assez oppressante. Il y a un travail de création sonore qui a été fait parce que les thématiques qu'on y évoque sont compliquées, notamment la notion d'enfermement. Alors, il y a deux aspects à cet enfermement. D'un côté, évidemment, c'est être privé de sa liberté. Donc, je voulais aussi vous interroger là-dessus. Est-ce que vous, ça vous a fait réfléchir par rapport à votre propre liberté de mouvement, liberté tout court ? Mais il y a aussi un aspect positif qu'on semble sentir dans ce podcast, c'est que les personnes qui sont en UHSA, elles sont finalement peut-être un peu satisfaites ou contentes, ou alors elles y trouvent quelque chose de positif quand elles sont dans cette unité-là, chose qu'elles n'ont pas forcément quand elles sont évidemment en détention, en prison. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut beaucoup ressentir dans ce podcast-là. Alors peut-être pour vous, Élise et Lilou, sur la notion d'enfermement, est-ce que ça vous a fait réfléchir ?
Moi, ça m'a confirmé encore une fois la pertinence, en fait, de faire venir ce genre de projet dans ce genre de lieu.
Romain, de votre côté, en termes d'expérience, pour le coup, physique, puisque vous étiez dans ces établissements-là, vous avez ressenti et comment vous l'avez vécu, ce moment d'être avec ces personnes-là, dans un moment qui était peut-être plus confortable pour elles et pour eux que lorsqu'ils sont en détention, en centre, en prison ?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un moment de soins pour ces personnes-là. Si en plus l'équipe soignante leur propose ces ateliers, c'est quand même quelque chose qui est stabilisé. La première année où on y allait, il y avait des gens très sédatés, avec qui c'était compliqué de faire des choses. Les gens s'endormaient pendant l'atelier. Donc c'était compliqué. Là, c'est pas le cas, ça s'entend. Donc effectivement, il y a un luxe parce qu'on n'est pas nombreuses. Ils et elles sont dans un moment, en même temps ils sont sur la pente remontante et en même temps ils sont quand même, s'ils sont là c'est parce que ça ne va pas. Donc c'est une petite bulle. Après l'enfermement, évidemment c'est quelque chose qui est très peu connu en fait. J'invite tout le monde à, quand c'est possible, à aller découvrir le milieu pénitentiaire parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de ce milieu-là, tout comme la psychiatrie. Donc l'enfermement, évidemment, ça concentre énormément les choses. Moi, j'ai l'impression d'y avoir passé des semaines, alors qu'en fait, j'y ai passé 8 heures là sur cet atelier-là. Et après, effectivement, pour elles et eux, je pense qu'on vient apporter quelque chose de vraiment différent à un moment particulier de leur vie. Et je pense que ça, c'est assez inestimable. On ne sait pas, en fait, quelle a été l'incidence de notre passage à ce moment-là bien précis de crise. Donc j'ai envie de croire qu'il et elle pensent encore à nous. Mais la particularité aussi, c'est qu'on ne peut plus être en lien avec ces personnes-là.
Et donc vous ne savez pas quel impact finalement vous avez eu, un impact court, moyen, long terme. Mais en tout cas, ce que je comprends, c'est que c'était votre intention d'accompagner ce moment de soins et de provoquer ou de donner un possible, peut-être élargir le champ des possibles auprès de ces personnes à un moment M de leur vie, sans trop savoir ce qui s'est passé avant et ce qui se passera après. Élise, pour finir, qu'est-ce que vous en avez compris également du lien entre les soignants-soignantes et les personnes dans cette unité-là ? Parce que à travers les différents épisodes que vous avez que la compagnie et puis dans le cadre de ce projet qui ont été réalisés, il y a différents types de relations qu'on voit poindre entre les personnes qui sont en EHPAD et leurs soignants-soignantes, ou les personnes qui sont donc censées être en détention et puis là qui reçoivent ce soin plutôt psychiatrique. Vous, comment vous l'avez perçu ?
Alors moi du coup je l'ai perçu mais plutôt de façon un peu lointaine parce que moi j'étais pas là lors des interventions, mais en tout cas en faisant les bilans du coup avec les équipes soignantes, ce qui en ressortait c'était vraiment ce principe d'horizontalité, la volonté aussi d'enlever sa blouse quoi, enfin c'est un peu cette idée là, l'idée d'être vraiment là en tant que participant, participante à un projet aussi artistique, à des ateliers d'écriture, à des exercices de théâtre. Et de ce qu'elle et il nous en disait, c'est que c'est vraiment une autre relation qui naissait en fait entre les patients-patientes et les soignantes.
Tu sens que les soignants et les soignantes les plus aguerris, qui ont plus d'expérience, aimeraient que ce soit comme ça tout le temps. Ouais. Ne pas avoir de blouse, se tutoyer, s'appeler par son prénom. Parce que c'est pas de la familiarité, mais d'un seul coup, ils sont plus proches et il n'y a pas la distance de la personne qui soigne, qui est censée, en savoir plus, avoir une ascendance. Voilà, je sentais que chez les personnes avec moins d'expérience, c'était très déroutant, d'un seul coup, de tutoyer son patient ou sa patiente. Mais c'était, effectivement, on l'entend dans le podcast, c'est un retour qu'on a eu très fort.
Et une petite dernière question peut-être d'élargissement dans le monde de la création sonore, notamment de la radio et aussi du documentaire, mais dans une moindre mesure parce que c'est plus compliqué à mettre en place. Ces thématiques-là d'enfermement, d'aller dans des endroits où il y a des soins psychiatriques qui sont délivrés et notamment en détention, c'est quand même des sujets qui, depuis plusieurs dizaines d'années et puis depuis longtemps, ont été réalisés car les moyens pour les réaliser ne sont pas trop gros à mettre en place. Vous, comment vous arrivez avec votre démarche justement dans cette historique, dans cette continuité ? Est-ce que vous vous dites, je veux absolument pas refaire ce qui a été fait ? Est-ce que vous dites, faut vraiment que je me démarque ?
Ou... Nous, côté MJC, en fait, ce projet, il est né notamment d'un partenariat qu'on a avec le CAGR. Et en fait, ça s'est fait après des échanges en commission culturelle avec une ancienne soignante, Madame Micheneau, Christine. Et il y a eu une première expérience d'un projet avec Loïc Lantoine au sein justement de l'UHSA. La première année précédente, ces trois années de jumelage-là. Donc là, l'idée, c'était de réitérer un petit peu ce projet-là, plutôt autour de la question du récit, c'est ce qu'on disait dans un premier temps tout à l'heure, parce que c'est en adéquation avec le projet de la maison, mais pour le coup, je laisse peut-être plus répondre Romain sur...
Oui, on ne s'est pas posé la question. On ne s'est pas posé la question, et moi, je suis fasciné par les documentaires radiophoniques ou audiovisuels sur la psychiatrie ou la prison. Mais on ne s'est pas posé la question, on s'est dit qu'on n'allait pas faire un documentaire, qu'on n'allait pas faire une fiction non plus. C'est vraiment ce principe de journal de bord, qui en tout cas, nous, c'est l'endroit le plus juste qu'on ait trouvé pour en même temps rendre compte vraiment à notre endroit d'artiste, donc avec notre subjectivité et notre méconnaissance aussi. Et puis aussi... Il y a aussi cette question de l'écriture où on peut se permettre quand même d'écrire, d'être dans de la poésie, dans une forme que le documentaire, par exemple, ne permet pas forcément. On a envie d'être dans du réel et dans quelque chose de très journalistique. Là, c'est notre petite part créative qui est stimulée. Donc, et je me suis jamais dit « Ah, faut que je fasse un truc qui n'a pas été fait, non, ça ne m'intéresse pas trop, parce que je pense qu'il faut justement refaire des choses qui ont déjà été faites et puis apporter sa patte, quoi.
Et alors, vraie dernière question pour finir. On parle de récit, mais vous ne nous avez pas dit, s'il y a des gens qui nous rejoignent maintenant en cours d'émission, quels sont le type de récits du coup, que vous avez récolté ou fait émerger en UHSA avec ces personnes-là ?
En fait, les récits sont multiples. C'est un peu c'est un grand récit avec plein de récits à l'intérieur. Il y a le récit de notre semaine là-bas. Et puis, à l'intérieur de cette semaine, il y a, en tout cas dans le podcast, et puis après, il y a aussi le travail qu'on fait au plateau et qu'on va continuer à faire. Il y a aussi des portraits qui se dégagent. Parfois, c'est des portraits très courts, parfois c'est des portraits. Là, dans le podcast, il y a deux personnes vraiment qui jalonnent, qui sont les représentants, représentantes de l'ensemble des participantes. Et voilà, c'est des récits portraits, des récits intimes. Et on crée plusieurs récits. Le podcast en est un. Et on a aussi notre récit, nous, avec le théâtre. Et peut-être qu'il y a une forme, peut-être qu'on éditera une forme. On va voir comment on arrive à faire ça. Mais c'est beaucoup de récits.
Beaucoup de récits, donc, et on suivra la multiplicité de ces récits. Merci beaucoup à Élise, Lilou et Romain qui étaient avec nous pour nous parler du projet « Celle qui nous entoure », un projet artistique de 3 années en partenariat avec le Centre hospitalier Guillaume Régnier, la compagnie de théâtre Le Groupe Odyssée et le Grand Cordel MJC. Merci.
Merci.
Merci, merci beaucoup.
C'était « Celle qui nous entoure », une série sonore consacrée au projet du même nom, porté par le Centre hospitalier Guillaume Régnier, le Groupe Odyssée et le Grand Cordel MJC. Un épisode à retrouver sur le site de Canal B.